déjà rendu 6 leçons, presque après aujourd'hui la moitié du cours de fait. Alors, laissez-moi commencer encore une fois avec une petite révision. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Est-ce qu'il y en a qui, à main levée, pourraient me dire rapidement quelques éléments qu'on a vus la semaine dernière, qui se souviennent? Oui. C'était-tu bon? Oui, Gérard. Je vais le demander. D'accord. Un avis ici. Si un de vous a une Volkswagen noire qui est stationnée sur le stationnement de Prof Dino, vous devez dès maintenant aller l'enlever de là parce qu'on a besoin de l'espace. Donc, c'est un espace réservé Prof Dino. En passant, là, il y a des pancartes. Ça explique qu'on n'a pas le droit de stationner là. D'accord. La semaine dernière, on a vu, d'abord, on a parlé de mystère, du mystère du royaume de Dieu, n'est-ce pas? On a vu que un mystère, plutôt, c'était pas nécessairement quelque chose qui était difficile à comprendre, quoique parfois ça pouvait avoir ce sens-là, mais que le sens biblique d'un mystère était simplement quelque chose qui avait été caché. Et donc, lorsqu'on révèle un mystère, on dévoile quelque chose qui était caché dans le passé. Donc, pas nécessairement quelque chose qui était difficile à comprendre. C'était ça la conception biblique du terme. Ensuite, on a vu que l'espérance du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament n'était pas nécessairement, ou ne laissait pas place, en fait, du tout à un royaume spirituel. Lorsqu'on regardait la promesse d'un royaume dans l'Ancien Testament, elle était faite dans des termes terrestres, dans le but d'être compris par les auditeurs, pour que les auditeurs aient envie de participer à ce royaume-là, et l'aspect spirituel était caché. C'était justement le mystère qui était dans l'Ancien Testament. Donc, on a vu que les prophètes attendaient un jour de gloire où viendrait le royaume de Dieu, où Dieu va s'établir son règne sur la terre. C'était ça l'espérance de l'Ancien Testament. Et dans la perspective, donc, de l'Ancien Testament, l'avenue d'un royaume de Dieu, du royaume de Dieu est envisagée aussi comme un événement unique et grandiose. Donc, l'aspect que le royaume de Dieu s'établit par étapes, c'était caché dans l'Ancien Testament. On ne voyait pas ça. Ensuite, on a parlé de la prédication de Jean-Baptiste. On a vu que pour lui, il attendait la venue du royaume qui était décrit dans l'Ancien Testament. C'était pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, il est allé voir Jésus en disant, mais en fait, il a demandé à ses disciples d'aller voir Jésus pour voir est-ce que c'était vraiment celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre. C'est pas que Jean-Baptiste avait douté de la personne de Christ, mais il se demandait si c'est parce que ce qui arrive, c'est pas ça qui est annoncé. Ou en tout cas, parce que Jean-Baptiste n'avait pas reçu, justement, le mystère du royaume. Il savait que le Messie s'en venait et il annonçait le royaume qui était dans l'Ancien Testament. Ensuite, on a parlé des paraboles. On a vu qu'il y avait quand même une différence entre une parabole et une allégorie. On a vu qu'une allégorie était une histoire inventée où chaque élément représentait quelque chose de précis. Ça, c'est une allégorie. Alors qu'une parabole était une histoire tirée des expériences familières de la vie quotidienne, une expérience que les gens pouvaient comprendre. Si on parlait d'une graine de sénévé, on comprenait, ils savaient ce que c'était. Si Jésus parle qu'un marchand s'en va de Jéricho à Jérusalem, les gens comprenaient un petit peu c'était quoi la route existait. C'était pas quelque chose d'inventé. Que c'était pas, où chaque élément n'a pas nécessairement un sens précis. Donc, dans les paraboles, chaque élément n'a pas nécessairement un sens. Et on a vu aussi que, on avait quand même souligné que parfois, certaines paraboles sont ce qu'on appelle des paraboles allégoriques, comme la parabole du semeur, où là, c'est une parabole, c'est-à-dire c'est un événement tiré de la vie quotidienne, mais où chaque élément ou certains éléments représentent des choses en particulier. Et en général, Jésus les a expliqués, ces paraboles-là. Il nous a expliqué que le champ, c'est le monde, que le semeur, c'est ou que la semence, c'est la parole, et que la moisson, c'est le jour, c'est la fin du monde, des choses comme ça. Donc, le point qu'on a fait qui était très important, c'était de ne pas faire l'erreur de croire que toutes les paraboles étaient allégoriques et que toutes les paraboles nécessitaient une interprétation où on va chercher le sens de chacun des éléments. Et on a donné un exemple, et je vais le reprendre ce matin, juste pour que vous saisissiez bien ce point-là, parce que c'est très important. On a vu Matthieu 13, 31-32, où qui disait que le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, si on se souvient, dans la parabole du semeur, il y avait des oiseaux aussi. Qu'est-ce que les oiseaux représentaient? dans la parabole du semeur. Les oiseaux représentaient Satan. Alors, si on veut importer un système et transposer ce système-là à la parabole du grain de sénévé, on serait obligé de dire que Satan laisse la graine croître sans obstacle. Est-ce que c'est vrai? Dans la parabole du sénévé, non, ça n'aurait pas de sens. On serait obligé de conclure que Satan vient s'installer dans le royaume une fois que celui-ci a atteint sa pleine maturité. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas ça du tout que le texte, que la parabole nous enseigne. En fait, les oiseaux dans cette parabole-là ne sont là que pour montrer à quel point le royaume, même dans sa forme insignifiante actuelle, remplira toute chose un jour. La graine de sénévé pousse, devient si grande que les oiseaux du ciel peuvent habiter dans ses branches. Et on a vu aussi, on est retourné voir dans Ézéchiel qui faisait la même référence à ce royaume qui grandit jusqu'à ce que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches et qui était justement un signe de la grandeur et de la magnificence du royaume et non pas un oiseau qui représente Satan ou des choses comme ça. Donc, vous voyez le danger de vouloir à tout prix donner un sens à chacun des éléments. C'est une erreur certaine. On a vu finalement que les paraboles du royaume révèlent un mystère concernant le royaume de Dieu. Ça, c'est peut-être une des plus grandes leçons que vous devez retenir par rapport à la semaine dernière. Jésus parle du royaume en parabole. Et lorsqu'il nous parle en parabole, il nous révèle quelque chose qui était caché dans l'Ancien Testament. Et pour comprendre le sens de la parabole, la question est simple. Quel élément nouveau cette parabole-là me donne par rapport à ce qui était annoncé du royaume de Dieu? Donc, on regarde le royaume qui est annoncé, on regarde la parabole, quel est l'événement nouveau? On peut comprendre le sens de la parabole. Les paraboles étaient une forme d'enseignement courante au temps de Jésus. L'étude des paraboles contemporaines à cette époque nous démontre que les paraboles servaient à illustrer une seule vérité. Ça, c'est un point qu'on n'a pas nécessairement discuté la semaine dernière. Même les paraboles allégoriques expriment une vérité principale. Prenons donc garde à la façon dont on interprète les paraboles. Cherchons plutôt à comprendre quelle est cette vérité qui est énoncée. Alors, souvent, on a vu des gens qui interprètent les paraboles et en essayant de trouver un sens à chacun des éléments, vont aussi donner toutes sortes de leçons différentes à la parabole. Or, la parabole est là pour nous enseigner une vérité en particulier. C'est cette vérité-là qu'on doit chercher à comprendre pour évacuer, si on veut, pas évacuer complètement pour dire on n'en tient pas compte, mais pour mettre à leur place les éléments secondaires et non pas mettre trop d'emphase sur des éléments secondaires de la parabole. Donc ça, c'était notre révision de ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette semaine, on va regarder un autre aspect du royaume de Dieu. On va parler de la vie du royaume. Dans Jean 3:3-5, Jésus dit à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ces versets-là font un lien direct entre le royaume de Dieu et la vie éternelle. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc, il y a vraiment un lien direct entre la nouvelle naissance, entre le royaume de Dieu, entre la nouvelle naissance qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu et la vie éternelle. En général, l'être humain a une grande soif de vivre, n'est-ce pas? À moins qu'on soit totalement désespéré, personne ne veut mourir. Même des fois, la maladie nous assaille, on envoie des gens sur le bord de la mort, ils ne veulent pas mourir, ils s'accrochent à la vie. C'est normal, on veut vivre, il n'y a personne qui veut mourir. Il y a une chanson, « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». Pour les plus vieux, là, les nostalgiques, je ne vous la chanterai pas, je vais me garder une petite gêne, mais ça me fait toujours penser à ça. OK? Donc, en général, les gens ont une soif de vivre. Même si la vie est parfois difficile, il est naturel que l'homme aime la vie et s'y accroche. C'est pas étonnant donc que l'offre du royaume de Dieu soit aussi l'offre de la vie éternelle dans ce royaume. Si Dieu nous offre d'entrer dans le royaume de Dieu, mais qu'on va vivre juste dans le royaume de Dieu 100 ans, c'est une offre intéressante, vrai, ça serait bon. mais c'est pas aussi excitant que de dire je t'offre d'entrer dans le royaume de Dieu, mais la vie que tu vas avoir dans le royaume de Dieu sera pas une vie limitée dans le temps, mais va être une vie éternelle, une vie sans fin. Ça, c'est excitant. Ça, c'est une offre qui mérite certainement plus encore qu'on s'y arrête. Cette vérité, donc, c'est la vérité qui ressort dans ce verset. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour voir ou entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord entrer dans la vie du royaume de Dieu, et donc il faut renaître. Lorsqu'on naît de nouveau, on entre dans une nouvelle vie, et c'est dans la vie du royaume. La parole de Dieu nous offre une vie qui est supérieure à la vie physique dont tous les hommes jouissent actuellement. C'est la vie du royaume, mais c'est cette vie-là que Christ est venu nous apporter. On a déjà vu que le royaume de Dieu, tel que présenté dans Daniel 2, doit changer l'ordre social et politique. Vous vous souvenez, dans Daniel 2, la pierre qui détruit la statue, et donc le royaume, la pierre qui grandit, et donc le royaume qui remplit toute la terre, il doit détruire tous les autres royaumes. Ésaïe 11, 6 à 9 nous ajoute d'autres éléments à l'attente de ce royaume de Dieu, puisqu'on est encore dans l'Ancien Testament, et qui a été révélé. Donc, il nous mentionne dans Ésaïe 11, versets 6 à 9, que le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours seront un même pâturage, leurs petits une même couche. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra la main dans le trou de la spique. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et souvenez-vous que montagne veut dire royaume. OK, c'est important. Car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors, certains vont attribuer ce passage-là au millénium terrestre. D'autres, ça va être plutôt dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, mais peu importe qu'on en attribue à l'un ou à l'autre, ça change absolument rien. La vérité qui se dégage, c'est que le royaume de Dieu, qui est à venir, va transformer l'ordre physique. Les choses seront plus pareilles. La création va être délivrée de l'esclavage et de la décomposition et de la corruption. Voyez-vous, le nouveau monde, la nouvelle création que Dieu va créer va être différente de celle qu'on est ici. Est-ce que ça va être littéralement comme c'est écrit? Un loup avec un agneau, une panthère? On n'est pas rendu là. On verra comment interpréter les Écritures prophétiques plus tard. Mais que ce soit littéral ou non, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que les lecteurs à ce moment-là ont compris? C'est que, waouh, ce royaume-là, là, j'ai envie d'y aller. J'ai vraiment envie d'entrer dans ce royaume-là parce qu'il ne se fera ni tort ni dommage dans tout ce royaume-là, dans toute ma montagne sainte. Ésaïe 66, 22 ajoute « Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je ferai subsisteront devant moi. » Alors encore ici, il y a un lien entre le royaume et la vie du royaume. Le nouveau royaume va être quoi? Va être éternel. Aujourd'hui, le royaume et on a une fin prévue. Le nouveau royaume va être éternel, il subsistera devant moi. Et de même, la vie de ce royaume-là est aussi éternelle. Donc, on entre dans un nouveau royaume qui est éternel, qui n'a pas une durée limitée. Et donc, la nouvelle vie qu'on a est une vie éternelle et pas une vie qui va être limitée dans le temps. Mais comme pour l'établissement du royaume, étant donné que le royaume de Dieu s'établit étape par étape, eh bien, la vie éternelle aussi s'établit par étapes. Alors, ça, c'est un mystère. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Comment on va voir ça ensemble? La vie éternelle et le royaume de Dieu. Donc, Jésus fait lui-même le lien entre la vie éternelle et le royaume de Dieu. On l'a déjà vu dans un passage de Matthieu 25 où Jésus parle. Donne-moi deux petites secondes. Non, je suis un petit peu trop tôt. Alors, dans Matthieu 25, Jésus nous parle de la séparation des nations lors du jugement du Fils de l'homme. Au verset 34, il dit, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez l'héritage, le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Et au verset 46, il dit à ceux qui iront au châtiment éternel, il dit, Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Donc, l'aspect éternel du royaume, encore une fois, Jésus a fait lui-même ce lien-là. Hériter le royaume et aller à la vie éternelle, c'est synonyme. Si vous héritez du royaume, vous avez la vie éternelle. C'est une promesse pour l'avenir qui est après le jugement, dans le texte ici. Dans Matthieu 19, Jésus avait clairement fait le même lien. C'est ici que je voulais vous mentionner tantôt, au niveau du jeune homme riche. Au verset 16, le jeune homme riche demande, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Et au verset 23, Jésus répond, « en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Donc, le lien entre le royaume et la vie éternelle, le royaume éternel, la vie éternelle, avait déjà été fait par Jésus. Avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume des cieux, c'est la même chose. Et encore ici, c'est une promesse qui est pour l'avenir. On entre quand dans le royaume de Dieu? On entre quand le Seigneur va revenir, n'est-ce pas? Si on avait juste ça, on ne pourrait pas conclure que ça va s'établir par étapes. La vie éternelle, le royaume de Dieu et même le salut sont tous des synonymes et sont réservés à l'avenir pour ceux qui croient en Jésus. Et effectivement, si on devait arrêter ici notre étude, on aurait encore uniquement une espérance pour la vie éternelle. Mais c'est plus que ça que Dieu nous a laissé. Peut-être qu'on pourrait affirmer, si on avait juste ces versets-là, peut-être qu'on pourrait affirmer qu'on va être sauvé aujourd'hui, qu'on est sauvé aujourd'hui dans le sens qu'on est sûr qu'on va être sauvé pour la vie éternelle. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que mon assurance du salut repose sur une espérance future uniquement? Ah, j'ai des gros noms. C'est intéressant. C'est le fun, ça. Alors, notre salut, est-ce que notre salut est uniquement une garantie qui nous garantit qu'un jour, on va avoir la vie éternelle? Comment? Je veux juste entendre... On a une assurance aussitôt, mais est-ce que c'est juste une assurance, est-ce que c'est juste une garantie, ou est-ce qu'on fait déjà l'expérience de la vie éternelle? On fait déjà l'expérience de la vie éternelle. Intéressant. En fait, pour déterminer si on a raison dans notre affirmation, on doit se poser les questions suivantes. Notre salut n'est-il qu'une espérance ou une réalité présente? Et on se pose des questions, mais il va falloir qu'on ait des textes, parce qu'on a beau affirmer n'importe quoi... Si on ne va pas voir ce qui est écrit, c'est n'importe quoi. Alors, première question, est-ce que notre salut n'est qu'une espérance ou est-ce que c'est une réalité présente? Est-ce qu'on est déjà sauvé ou est-ce qu'on va être sauvé uniquement lors du jugement? Est-ce qu'on peut faire maintenant l'expérience de la vie éternelle ou est-ce que c'est une expérience qu'on va faire uniquement plus tard? Donc, le premier point qu'on va déterminer, c'est qu'effectivement, la vie éternelle, c'est pour l'avenir. On va regarder des textes qui nous confirment que la vie éternelle, c'est pas maintenant, que c'est plus tard. Et ensuite, on va regarder s'il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Alors, c'est clair que la vie éternelle appartient au futur. Dans 2 Corinthiens 5, 1 à 4, Paul l'explique clairement. Il nous dit, « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, » Alors, on parle de quoi ici, là? Notre demeure terrestre qui est une tente. On parle de notre corps, n'est-ce pas? On ne parle pas de notre maison, on ne parle pas de notre tente roulotte de nos vacances d'été. Ça parle de notre corps. Alors, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Cet édifice-là, cette demeure éternelle-là, c'est de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'une maison dans laquelle on va vivre dans l'éternité? On parle d'un nouveau corps. Exactement. Aujourd'hui, on vit dans une tente, mais on a un édifice qui nous attend au ciel. Pas pire, ça, comme perspective. Moi, j'aime ça. Donc, on sait que si cette tente est détruite, on a dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par les mains d'un homme. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins... Nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé ou englouti par la vie. Un jour, donc, on va recevoir un édifice, plutôt, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Cet édifice-là, ce n'est pas une maison. C'est un corps, un nouveau corps qui nous attend après la résurrection des morts. Dans notre demeure terrestre, dans notre corps terrestre, on gémit désireux de revêtir notre corps spirituel par-dessus l'autre. Parce qu'on ne veut pas non se dévêtir, mais se revêtir afin que ce qui est mortel donc soit absorbé par la vie. 1 Corinthiens 15 disait aussi, 1 Corinthiens 15, 50-51, Paul dit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. » Donc, un élément ici qui nous indique que ce nouveau corps ne sera pas constitué de chair et de sang. Alors, difficile à saisir, puisqu'on le sait que c'est un corps, en fait, on va le voir un peu plus loin, que c'est un corps qui est comme matériel, il y a de la matière, mais ce n'est pas de la chair et du sang. C'est un édifice qui est construit par Dieu même, qu'on va revêtir et qui va être notre corps pour l'éternité, notre corps glorifié. La vérité, donc, qui se cache derrière ce fait que Paul vient de dire, c'est que la vie éternelle ne se résume pas à une vie spirituelle sans corps. Alors, si on imagine que la vie éternelle, c'est une vie qui va être, où ce qu'on va être des esprits, un peu comme les anges qui sont des esprits qui se promènent, c'est pas tout à fait ça. On va être comme des anges sous certains aspects. Jésus le mentionne du fait qu'on se mariera pas. On va être comme les anges dans le ciel. Mais on sera pas comme les anges des esprits. On va avoir un édifice, on va avoir un corps spirituel pour passer cette éternité-là sur une nouvelle terre, donc, que Dieu va créer. La vie éternelle, c'est une vie spirituelle avec un corps spirituel. Donc, la vie éternelle qu'on attend inclut la rédemption du corps. Mon âme a été rachetée, n'est-ce pas? Ma vie a été rachetée, mon esprit a été racheté. Mon corps doit être racheté également pour faire partie ou pour entrer finalement à la fin dans le royaume de Dieu. Dans sa plénitude, si on veut. C'est dans des corps glorifiés et transformés qu'on va jouir de cette vie éternelle. Maintenant, certains diraient, à quoi va ressembler ce corps-là? S'il y en a qui ont des idées, déjà. À quoi va ressembler notre corps? Vous avez certainement déjà vu des versets. Levez la main. Oui, Paul? Quatre bras. Quatre bras, deux... Comment? Deux ailes? Deux têtes? Ouais. OK. Paul... Oui. Paul, je veux voir tes versets. OK. Toi et moi, on a une discussion après. OK. Je veux savoir quelle Bible tu lis. OK. Oui. Je pense que ça va ressembler au corps de Jésus. OK. Donc, on a un indice, le corps de Jésus. OK. Lorsque Jésus est ressuscité, rappelle-moi ton nom. Dominique nous mentionne qu'on devrait ressembler au corps de Jésus. C'est un indice intéressant. Un indice, pas complet, mais c'est un indice, oui. Ah, oh, Paul, arrête. Je ne répéterai pas ça pour l'enregistrement, là, ça serait n'importe quoi. OK, d'autres aspects, d'autres idées là, que vous pourriez avoir. Quelle sorte de corps on va avoir pour l'éternité? Vous avez certainement déjà des versets isolés là, qui vous amènent à tirer certaines conclusions. Non? Hein? Un corps semblable à lui, à Christ? Oui, bien, Dominique a mentionné quelque chose semblable à ça. OK, allons voir ce que la parole de Dieu dit. Et là, ici, la question n'est pas d'être dogmatique pour déterminer le détail. Il y a encore beaucoup de mystères, n'est-ce pas, en rapport à ce corps-là. Et il faut garder. Ce que Dieu a gardé caché, c'est pas à nous à essayer de deviner ce que c'est par toutes sortes de spéculations. Il y a des dangers à spéculer, n'est-ce pas? Mais restons dans ce qui est sûr. Restons dans les indices que Dieu nous a donnés. Alors, essayons de voir quel genre de corps on va avoir après la résurrection. Donc, cette question-là n'est pas nouvelle. D'abord, cette idée de se demander quelle sorte de corps on va avoir, c'est pas anormal, c'est pas un péché, c'est au contraire, c'est une question tellement courante que Paul a adressé cette question-là, il trouvait qu'elle était légitime, et il va donner une très bonne explication pour aider les Corinthiens, non pas à tout comprendre, mais à accepter le fait et croire que Dieu va ressusciter nos corps lors de son avènement. OK? On voit ça dans 1 Corinthiens 15, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Ah, vous le connaissiez, ce verset-là. Je ne peux pas croire, vous ne me l'avez pas mentionné, mais je ne peux pas croire que vous ne connaissez pas 1 Corinthiens 15. Donc, Paul pose la question, parce qu'il y avait des gens, évidemment, qui ne croyaient pas à la résurrection, puis il dit, Certains vont dire, ouais, mais avec quel corps est-ce qu'on va revenir, qu'on va revenir? Alors, il faut comprendre, effectivement, que parce qu'ils ne comprenaient pas comment ça se pouvait, il y en avait qui rejetaient tout simplement l'idée que la résurrection était possible. Donc, il y en a qui disaient, ah, voyons, c'est une histoire de grand-mère, ça, la résurrection. Avec quoi, quel corps on va revenir? Notre corps va être complètement en poussière. Moi, je me suis fait manger par un requin, j'ai pas été chanceux. Mon corps va ressusciter comment? Comprenez-vous? Parce que les gens ne comprenaient pas comment est-ce que c'était pour se faire. Ils rejetaient l'idée de la résurrection. Et donc, Paul adresse cette question-là d'une manière bien intéressante dans 1 Corinthiens 15. Et Paul expose la question donc avec beaucoup de détails. Paul utilise l'image d'un grain semé en terre pour faire une analogie. Alors, il va répondre ici dans 1 Corinthiens 15, 36 à 38. « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Alors, si tu sèmes une graine, c'est un corps, c'est la graine. Une fois qu'elle va mourir, ce qui va pousser, ce n'est pas une graine, c'est une plante. Hein? Donc, ne surprends-toi pas si le corps que tu as présentement meurt et qu'il en ressort autre chose. Ce qui va ressortir, ce ne sera pas le même corps qui est là. Ça va être complètement différent. Hein? Là, on vit dans une tente, c'est un édifice qui nous attend. Je ne sais pas combien d'étages, là. Mais... quelle est cette image que Paul... Parce que là, encore une fois, ça ne sera pas une maison. Hein, je vous le rappelle. Il y en a qui sont littéralistes. Des fois, il faut préciser des choses. Mais quel est le rapport entre une tente et un édifice? Vite fait, là. Qu'est-ce que l'auditeur doit comprendre? Je vis dans une tente et je vais recevoir un édifice. Un chalet avec appartement? Non. Attends. Oui, alors il y en a un qui est temporaire et l'autre est permanent. C'est ça le parallèle. Moi, je vis dans une tente, c'est temporaire. J'ai un édifice permanent qui m'attend. Alors, l'idée n'est pas de savoir à quoi comprenez-vous, je ne vis pas dans une tente, là. C'est un corps que j'ai. Mais cette tente-là, elle est temporaire. L'édifice que je vais recevoir, c'est pas un édifice, c'est une autre sorte de corps. Mais lui, il va être permanent. Alors, c'est ça l'image. OK? C'est important de le comprendre. Donc, et avec la plante, donc avec la graine qui est semée, Paul fait le même exemple. Bon, je ne suis pas une graine, je ne serai pas une plante. Il est en train de nous dire que le corps qu'on va avoir va être complètement différent, avec des similitudes, parce que là, on a l'histoire de Jésus qui nous revient, mais on n'est pas rendu là encore. Mais le corps qu'on va avoir va être différent du corps qu'on a présentement. Le corps qu'on a présentement est temporaire, le corps qu'on va avoir va être permanent. On a l'image avec la tente et l'édifice. Et avec la graine, on a une autre image, et que le corps qu'on a présentement est tout petit puis insignifiant, alors que ce qui va pousser va être quelque chose de grand et qui ne lui ressemblera presque pas. OK, donc d'autres éléments comme ça. Après donc avoir comparé les corps terrestres et les corps célestes, donc une autre espèce de comparaison que Paul fait avec l'éclat d'un corps à un autre, Paul va reprendre l'analogie de la graine et il va dire « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. » Et là, il dit, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, parle d'Adam. Le deuxième homme vient du ciel, c'est Christ. Tel est le terrestre, tel est aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ah, quel beau chapitre 1 Corinthiens 15. Paul, donc, ici, met en contraste quatre caractéristiques de notre corps terrestre par rapport à notre futur corps céleste. On va les regarder ensemble. Premièrement, semé corruptible, ressuscite incorruptible. Semé méprisable, ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, ressuscite plein de force. Semé corps naturel, ressuscite corps spirituel. Alors, on ressuscite incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot « corruption », d'abord, ici, fait référence à la mort, à la décomposition du corps physique. On est corruptible parce que notre corps se dégrade. Il va finir par retourner à la poussière. Tu fais poussière, tu retourneras à la poussière. Le fait que notre corps glorifié sera incorruptible signifie que ce corps ne vieillira pas. Donc, la nouvelle maison, le nouveau édifice qu'on va recevoir ne vieillira pas. Il ne sera pas sujet à la mort ou aux maladies. Notre nouveau corps va être en parfaite santé. Psaume nous mentionne, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » On voit le sens ici du mot « corruption », la décomposition du corps du psalmiste ici, David. Deuxième point, on ressuscite glorieux. Alors, lorsque mis en contraste avec l'aspect méprisable du corps actuel, Paul veut faire ressortir la beauté de l'apparence de ce nouveau corps glorieux. Aujourd'hui, on est méprisable, on va ressusciter dans un corps glorieux. On n'aura plus ce corps méprisable, plus d'œil croche, des dents croches. Non, on n'aura plus ça. Je ne boiterai pas, je ne serai pas sourd dans l'oreille. Le mot « gloire », on ressuscite glorieux. Le mot « gloire » est souvent employé dans la Bible dans le sens de lumière qui émane de la personne de Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Dieu est glorieux. Il y a de la lumière qui sort de Dieu. Alors là, c'est une hypothèse, mais elle est quand même intéressante. On peut repenser que nos corps glorieux vont resplendir d'une lumière divine, ce qui n'est pas le cas présentement. Cette image est d'ailleurs suggérée à quelques endroits dans la Bible, ou dans Matthieu 13, 43, où il est écrit « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ceux qui auront été clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc, c'est un passage, évidemment, ou des passages qui pourraient n'être que des métaphores. On va resplendir comme le soleil, on va resplendir comme les étoiles, etc. Donc, c'est une comparaison, c'est une métaphore, mais il y a peut-être un aspect réel aussi du fait qu'il va émaner quelque chose de nos corps, on ne pourrait pas le dire. Un exemple dans ce sens, c'est celui de Moïse. Quand Moïse a vu Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à son visage? Son visage rayonnait, littéralement. Alors, il a juste vu Dieu pendant quelques jours, hein? Puis son visage s'est mis à rayonner. Lors de la transfiguration, et là c'est intéressant parce que là Dominique nous a quitté quelques minutes, il dit tantôt, Dominique, que notre corps ressuscité va ressembler au corps de Jésus ressuscité. C'est vrai. C'est un indice qu'on a, OK? Mais est-ce que ce corps-là qu'on a vu de Jésus ressuscité, que les gens ont vu, était le corps spirituel? C'est une bonne question, là. On ne me dit pas encore, mais le fait est que lors de la transfiguration, on a vu Jésus. C'était pas seulement son corps, par exemple, mais Jésus a été transfiguré. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un visage qui resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, l'aspect de la gloire de Dieu et l'aspect de la luminescence ou du rayonnement est un aspect qui est présent dans la Bible. Donc, est-ce que nos corps vont rayonner à ce point-ci? On spécule, mais il y a quand même certains indices qui pourraient nous laisser croire que nos corps spirituels vont être vraiment glorieux. Ce ne sera pas juste « Ah, c'est toi, mais tu mesurais 5 pieds, là, tu mesures 6 pieds. » C'est pas pire. T'sais? Non, ça va probablement être plus que ça, à quelque part. On ressuscite plein de force versus le fait qu'on était semé plein de faiblesse. Notre corps glorifié ne sera pas seulement exempt de maladie, il va être aussi plein de force. Et ça ne signifie pas nécessairement qu'on va être des surhommes, ou qu'on va pouvoir lever 1000 livres au bout de nos bras. Mais plutôt que notre corps glorifié ne se fatiguera pas. Il sera pas soumis à l'épuisement ou à la fatigue. Ça, on n'arrivera pas à dire « Oh, j'ai plus de force, je suis vraiment fatigué, il faut jamais me coucher. » Non. Notre corps glorifié, on va-tu dormir au ciel? Hein? Moi, j'ai l'impression que je ne serai jamais fatigué. Hein? On va vivre éternellement et on ne dormira pas. Imaginez ce qu'on va être capable de faire, hein? Hein? Je savais qu'il y en a ici qui se diraient, j'aimerais bien ça pour être pas dormir, moi. Il me semble que ça serait un 8 heures où je serais super productif. Mais on va avoir un 8 heures de plus pour louer l'Éternel. Mais ce ne sera pas des jours de 24 heures, ça va être le jour d'éternité. Ce ne sera pas pareil comme aujourd'hui. Okay? C'est difficile d'imaginer comment ça va être. Et encore une fois, ces révélations-là par rapport à la vie éternelle ou des choses comme ça n'ont pas nécessairement pour but d'être toutes prises littéralement, je vous le dis, mais bien plutôt le but de nous donner le goût d'y aller. OK? Comment ça va être exactement? Pas sûr, mais les indices que j'ai, là, ça, wow, là, j'ai le goût d'y aller. Comprenez-vous? Quatrième point, on ressuscite corps spirituel. Ah, ça, c'est une grande question qui se pose. Qu'est-ce qu'un corps spirituel? Je vous pose la question. On est semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y en a qui ont des idées là-dessus. Qu'est-ce qu'un corps spirituel? Esprit et âme. Esprit et âme. Ouais, OK. Toute tentative, c'est correct. Vas-y, Gérard. Corps naturel qui a goûté au péché.
Et corps spirituel qui ne goûtera plus au péché.
Et corps spirituel qui ne goûtera plus au péché, mais qui va être à l'image de Dieu. Intéressant. Je ne crois pas qu'il y a cette notion de péché par rapport au corps dans ce contexte-ci.
Le corps spirituel,
mais c'est vrai que le corps spirituel va être exempt de faiblesse et exempt de péché. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais ce que je veux savoir, c'est ce corps-là. Moi, j'ai un corps de chair actuellement. De quoi il va être composé le corps spirituel? Ça va être un corps composé d'esprit? Oui, ben... semblable à Jésus après sa résurrection. Ça a déjà été dit, par exemple. Corps glorifié. Ah, il va y passer à travers des portes. On va étudier le cas de Jésus ressuscité dans quelques secondes, quelques minutes. On y reviendra. OK. C'est intéressant. OK. Qu'est-ce qu'on va avoir ou qu'est-ce plutôt qu'un corps spirituel? Est-ce que c'est un corps qui est composé d'esprit? La réponse est non, en partant. Quand Paul parle d'un corps naturel, le mot qui est là, c'est un corps animal. Peut-être que dans certaines versions, vous avez ça. Il fait pas référence à la matière qui compose le corps, mais plutôt au principe qui anime le corps. Okay? Dieu a formé l'homme, Adam, de la terre. S'il avait juste fait ça, ça serait rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce corps-là prenne vie? Il a soufflé dans ses narines et il devint une âme vivante. Le mot âme, anima, c'est âme en passant. Est-ce que les animaux ont des âmes? Oui, manifestement, puisque c'est un animal. Son corps est animé par une âme. Oh! Là, on a un autre débat, là, hein? Mais on n'est pas rendu là, OK? Moi, je crois que lorsqu'on enseigne, il faut faire un pas à la fois. Mais j'aime vous semer des fois des petites réflexions, hein, juste pour vous faire réfléchir sur autre chose. Mais revenons à nos moutons. Pardon? Est-ce que les moutons ont des âmes? Ben oui, l'âme est dans le sang. Hein? Les animaux, l'âme est dans le sang. Vous ne mangerez pas un animal avec le sang parce que l'âme est dans le sang. La vie est dans le sang. OK? Bon, c'est juste un petit aparté. J'ai certainement déjà donné un cours là-dessus, oui. Je pourrais le redonner. Ça va être le corps animal? Non, je ne sais pas, je ne me souviens pas du titre. C'est dans le cadre d'un autre nom. Mais en fait, c'est dans le cadre du royaume de Dieu que je parle de ça. OK. Alors, quand Paul parle d'un corps animal ou un corps naturel et d'un corps spirituel, il ne fait pas référence à la matière qui compose le corps, mais plutôt au principe qui anime ces différents corps-là. Dans le cas d'un corps animal, c'est le mot, je vous le dis comme je le lis, « psychikos », okay, qui est l'adjectif du mot « psyché » qui veut dire « âme » ou « psyché » qui veut dire « âme ». C'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante, un psyché vivant, un psyché vivant. Dans le cas d'un corps spirituel, ce n'est pas le mot « âme » qui est utilisé, ou « psyché », c'est le mot « pneumatica », c'est « pneuma », hein, « pneumatique », c'est de l'air, hein, c'est l'esprit. Alors, le corps qu'on va avoir va être un corps « pneumaticos ». Là, présentement, on a un corps « psychikos », on va avoir un corps « pneumaticos ». Donc, la forme de l'adjectif « pneuma » ou « esprit », le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam était une âme vivante. Le deuxième Adam, Christ, est un esprit vivifiant. Ce n'est pas le même principe. Un corps naturel ou animal n'est pas un corps qui est composé d'âme. Vous êtes d'accord avec moi? L'âme, c'est le principe qui anime ce corps-là, qui fait que le corps que j'ai présentement, l'âme que j'ai fait en sorte que je peux bouger, je suis animé. Le corps spirituel que je vais avoir plus tard va être un corps qui ne sera pas dirigé par une âme, va être un corps qui va être dirigé par l'esprit, qui va être conçu pour l'esprit et qui va être adapté à l'esprit. Il va avoir des caractéristiques et qu'il n'aura pas connu le péché, comme disait Gérard, ces choses-là. Mais ce que je voulais savoir comme question, là où je voulais vous amener, c'était plutôt, qu'est-ce qui distingue le corps présent du corps à venir? C'est le principe de vie qui va animer ce corps-là. Maintenant, je suis animé par une âme, j'ai un esprit, mais je suis animé par l'âme. Le corps à venir, le corps spirituel, va être un corps qui va être dirigé par l'esprit, qui va être animé par l'esprit. Oui, Dominique? Qu'est-ce qui arrive à notre âme? C'est une bonne question. Pour toi, l'âme, c'est éternel. Oui, maintenant, c'est une très bonne question. Sincèrement, je ne voudrais pas y répondre maintenant. Okay? Ça mérite qu'on y revienne. C'est que l'âme et l'esprit, c'est difficile à discerner. Okay? Lorsque même... Paul parle de la parole de Dieu qui est tranchante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Autant c'est difficile de séparer la moelle de l'os, autant c'est difficile de séparer l'âme et l'esprit. Une chose qui est certaine, les animaux ont une âme, mais ils n'ont pas l'esprit. L'homme a une âme et l'esprit qui vient comme se mélanger à l'âme. En tout cas, c'est difficile à trancher entre les deux. La parole de Dieu, elle est capable de le faire, mais humainement, c'est difficile de le faire. Okay? Donc, je n'irai pas dire, tu n'as pas raison, l'âme, c'est des animaux ont des âmes, puis ils meurent, puis c'est fini. Non, non, nous, on a une âme et un esprit, et ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Il y en a qui feront pas de distinction entre les deux. Vous connaissez, il y a deux positions, les dichotomistes, les trichotomistes. Ça vous dit-tu quelque chose? Il y en a qui disent qu'on est composé de trois éléments, corps, esprit et âme, c'est les trichotomistes. D'autres vont dire, non, non, on est... Dichotomiste, c'est l'esprit, c'est le corps et l'esprit, puis l'âme, c'est la même chose. OK? Alors, voyez-vous qu'il y a un débat. Alors, on n'est pas ici pour régler le débat. Oui. Va pas trop vite parce que je dois le répéter. OK? Avant d'être sauvé, ton corps est attaché au corps, donc au monde. Et lorsque tu es sauvé, ton âme est attachée à l'esprit et donc tu ne vis plus comme le monde. C'est une théorie intéressante. Est-ce que j'abonde dans ce sens-là? Je ne suis pas sûr du tout. Ça mériterait que j'y réfléchisse. Juste avant d'aller plus loin, je veux juste être sûr que j'ai le temps de répondre à ces questions-là. Je trouve ça intéressant qu'on puisse en discuter parce que c'est des bonnes questions. Mais... juste pour revenir à l'âme et l'esprit, là, étant donné que c'est difficile à discerner les deux, que tu me dises l'âme est éternelle, oui, je suis d'accord, mais c'est l'esprit qui vient faire en sorte qu'on est différent. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Oui. Oui. Exactement. Donc, tu vois, tu as des versets, là. C'est ça que je voulais entendre. Je voulais que tu me sortes des textes bibliques. Là, j'avais pas de verset qui me venait en tête, fait que je voulais pas dire n'importe quoi. Oui, les armes, on voit que les armes de ceux qui sont sous l'autel, qui ont été mis à mort, les armes qui vont aller dans... Alors, effectivement, âme et esprit, c'est très, très, très difficile à séparer. Disons que l'âme humaine est éternelle. Est-ce qu'on s'entendrait-tu là-dessus? Pas l'âme des animaux? Nécessairement, puis j'aimerais, parce que j'ai pas de texte qui me le dit, OK? Mais l'âme humaine, disons qu'elle est éternelle, je suis d'accord avec ça, 100%. Mais l'esprit est attaché avec ça. Parce que la Bible me dit que l'animal a une âme. L'âme, c'est le principe de vie. Où c'est écrit dans la Bible? Je pourrais vous en citer plusieurs textes, mais notamment lorsque vient le temps de faire des sacrifices, il dit de ne pas manger. Il dit, mais est-ce que vous m'écoutez en ce moment? Je suis en train de vous l'expliquer, là. Oui? OK? Alors, lorsque on offrait des sacrifices, on ne devait pas prendre des sacrifices avec le sang. Il fallait vider l'animal de son sang. Même pas les sacrifices. Quand on mangeait l'animal, il fallait le vider de son sang. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le sang. OK? Le principe de vie est dans le sang. Les témoins de Jéhovah ont fait une doctrine avec ça, là. Ils prennent pas de transfusion sanguine parce que l'âme est dans le sang. Voyez-vous jusqu'où on va, là, quand on, on veut aller au pied de la lettre. Alors voilà, là vous confondez l'âme humaine, qui est une âme et un esprit, et l'âme animale, qui est le principe de vie. C'est deux choses, disons, différentes. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? C'est l'esprit. OK? Et j'avais fait toute une réflexion là-dessus, là, je vous la partage, mais il faut que ça reste entre nous ici. OK? Il va falloir que je ferme le micro. Non, mais qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? C'est la parole. L'homme parle. Et faites le parallèle avec l'esprit et la parole. Vous allez voir que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est l'esprit. Et c'est la parole. Et les animaux ne parlent pas, ils imitent. OK? Le son, les perroquets, certains autres animaux même peuvent imiter la parole humaine, mais c'est une imitation, ils ne parlent pas. L'homme parle et cette parole est une manifestation qu'on est créé à l'image de Dieu et qu'on est totalement différent des animaux. On a un esprit. Oui. Deux animaux qui ont parlé, Satan, oui, le serpent. Et l'âne à Balaam, c'est vrai. OK, c'est intéressant. Ben oui, ça veut dire quoi, ça? Hein? OK, est-ce qu'il parlait vraiment ou est-ce qu'il parlait vraiment? Voilà, Dieu a fait quelque chose de bien spécial pour qu'il puisse parler. En tout cas, l'âne, Satan, c'est une autre histoire. Bref, parenthèse terminée, l'âme et l'esprit. Donc, l'âme et l'esprit humain, c'est dur à discerner entre les deux. Et que tu sois, qu'il y ait une différence pour toi entre les deux ou qu'il n'y en ait pas, c'est correct. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de problème. Et effectivement, on peut dire que l'âme est éternelle. La Bible le mentionne clairement. L'âme humaine, en tout cas. L'âme animale, on n'est pas certain. Revenons à notre corps spirituel. OK? Corps spirituel. Alors là, j'aime ça des fois faire des apartés comme ça. On ne sait jamais où ça nous conduit. Donc, un corps naturel ou animal n'est pas un corps composé d'âme, puisque l'âme habite et anime le corps fait pour lui. De même, un corps spirituel n'est pas un corps composé d'esprit, mais bien un corps conçu et animé par l'esprit. Notre corps naturel va donc être changé en corps spirituel, spécialement conçu et adapté pour être dirigé par l'esprit. Présentement, notre corps est charnel et il n'est pas dirigé par l'esprit. Hein? Romain nous l'explique clairement. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Vrai? Le corps spirituel qu'on va avoir, il n'y aura pas des désirs contraires à l'esprit. Il va être conçu pour marcher avec l'esprit. J'ai hâte. Hein? Ce corps-là, moi, mon corps actuellement, là, il y a des désirs contraires à l'esprit qui habite en moi. Lorsque je vais recevoir mon corps spirituel, il n'y en aura plus de péché, parce que mon corps spirituel va vouloir la même chose que l'esprit. Il va être dirigé par l'esprit. C'est encourageant, hein? Trouvez-vous? Oui, Gérard. Juste une parenthèse. Parenthèse.
Parce que lorsqu'on parle du corps, Paul me dit offrir mon corps en sacrifice vivant.
Paul dit offrir. Je ne parle pas trop vite, je dois répéter. Okay? Paul dit offrir vos corps en sacrifice vivant lorsqu'il parle du corps, oui.
Oui. Et on a tendance à regarder comme le corps parce qu'il n'héritera pas du royaume de Dieu, il va être glorifié comme quelque chose de très mauvais.
On a tendance à regarder le corps comme quelque chose de très mauvais. Mais tu nous dis que Paul nous dit d'offrir ce corps-là en sacrifice.
Donc, c'est une question d'attitude. Quand on parle de corps, d'attitude charnelle, on parle de comportement qui déplaît à Dieu. Et si on offre nos corps en sacrifice vivant à Dieu, ça coûtait.
Oui, mais offrir nos corps en sacrifice vivant, est-ce que ça veut justement dire, est-ce que ça veut pas justement dire que si j'offre mon corps en sacrifice, je ne ferai pas ce que mon corps veut?
Voilà.
Comprends-tu? Offrez vos corps en sacrifice, là. Sacrifiez-les votre corps pour que l'esprit puisse vivre et agir.
Mais mon corps va donner une attitude qui va
plaire à Dieu. Et oui, nos corps vont devenir si on sacrifie notre corps, nos membres vont devenir des membres de justice. On va pouvoir offrir nos membres en justice à Dieu au lieu de les donner au péché. Mais on doit le sacrifier pour ça. Parce que ce que le corps désire, là, c'est contraire à ce que le Saint-Esprit désire. C'est ce que Paul me dit dans Romains. Ils ont des désirs contraires. C'est même pas compatible. Ça marche pas ensemble. Qu'est-ce qu'on fait là? On aspire, on gémit. C'est quoi le terme qui était utilisé tantôt? Est-ce qu'il y en a qui... On agonise, on a... Je ne l'ai plus, là, le terme. Notre corps, dans Corinthiens. Soupir, mais c'est pas le mot qu'il y avait. On gémit, nous gémissons accablés actuellement dans le corps qu'on a. Et on aspire effectivement à revêtir ce corps spirituel qui va avoir les mêmes désirs que l'esprit. Et ça va être extraordinaire. Vivement l'éternité. Alors, notre corps naturel va donc être changé pour un corps spirituel spécialement conçu et adapté pour être dirigé par l'esprit. Donc, le point à comprendre ici, c'est que notre corps glorifié va être un corps matériel et non immatériel ou fabriqué d'esprit. Il sera éternel, sans faille, en un mot, parfait. Un autre élément à considérer quand on veut comprendre à quoi va ressembler notre corps ressuscité est de considérer le corps de Jésus lui-même, donc ce que Dominique mentionnait tantôt. Alors, après sa résurrection, Jésus a rencontré ses disciples. On le lit dans Luc 24, 37 à 39. « Saisi de frayeur et de crainte, il pensait avoir un esprit, voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, et touchez-moi. » Voyez, un esprit n'a ni os ni chair, comme vous voyez que je suis. Donc là, il y a comme une espèce de petite... ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu tantôt. Là, il y avait encore os et chair, comme vous voyez que j'ai. Mais dans le cas de Jésus, okay, son corps, que les gens voyaient comme ayant os et chair, avait quand même des particularités qui n'étaient pas communes à ce que nous, on a. Okay, dans le cas de Jésus, le même corps qui est mort, c'est celui qui est ressuscité puisque le tombeau est vide. Alors là, on a un élément intéressant. C'est pas mon corps est là puis il a pourri puis j'ai un nouveau corps. Non, c'est le corps qui a pourri qui est ressuscité. Ah, ben en fait, il avait pas pourri encore dans le cas de Jésus, mais c'est son corps qui est ressuscité. OK? Il a été transformé en corps spirituel, comme à la venue de Jésus. S'il y en a ici qui sont encore là, lorsque le Seigneur revient, nos corps vont être transformés. On ne mourra pas, on ne connaîtra pas la corruption, mais on va être transformé. On voit aussi au verset 16 qu'on pouvait reconnaître Jésus. Il a fallu que les yeux des disciples soient empêchés de le reconnaître d'une manière surnaturelle pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Sinon, ils l'auraient reconnu. C'est intéressant. Est-ce qu'on va se reconnaître au ciel? Bonne question. On voyait les marques de la crucifixion en témoignage de tout ce qu'il a souffert au verset 39. Au verset 43, on voit qu'il pouvait manger. Jésus se présente au milieu d'eux alors que les portes étaient fermées, barrées, puis oups, il apparaît là. Et on voit qu'il est monté au ciel avec son corps. OK? Mais bien qu'on ne soit pas en mesure donc de lever entièrement le voile sur ce mystère-là, on a toutefois des indices qui nous éclairent sur la nature matérielle de notre futur corps. OK, je crois pas que le corps que Jésus avait lors de sa résurrection, en fait, je crois pas que le corps de Jésus avait. Le corps que Jésus avait lors de sa résurrection que les apôtres ont vu et ont touché, je ne suis pas sûr que c'est exactement ce corps-là qu'on va voir au ciel. C'est comme si Jésus avait permis qu'il puisse voir certaines choses de son corps qui ne seront plus nécessaires lorsqu'on va être dans l'autre royaume. OK? C'était peut-être pour le reconnaître, mais en même temps, il y a des indices qui... C'est correct si on pense ça, là, comprenez-vous? Parce que le reste, c'est de la spéculation. À un moment donné, on ne sait plus là, comment ça va être. Là, OK? Puis ça ne donne rien d'aller plus loin que ça. L'objectif de l'enseignement sur la vie éternelle et sur ce corps, c'est quoi? C'est qu'on puisse dire exactement si on va avoir quatre bras ou deux têtes? Non! C'est pour qu'on ait le goût d'y aller, comprenez-vous? C'est pour qu'on sache comment est-ce que ça va être complètement extraordinaire. Alors, perdons pas de vue le but de l'enseignement pour pas se perdre en conjecture. Oui, Jean-Sébastien. Je vais te dire si tu t'éloignes. Oui? Tu t'éloignes beaucoup du sujet. OK, on y reviendra. Puis je ne le répéterai pas parce que ça serait trop. Imagine que je commence à partir là-dessus, on en a encore pour une heure. Hein? Non, tu ne veux pas m'embarquer là-dedans. OK. Oui, mais on n'a pas le temps. Tout est là. Imaginez-vous qu'il y a un pasteur qui veut prêcher après moi, là. Puis il me regarde, il fait des signes en arrière en disant coupe. Non, c'est pas vrai, il est pas là, c'est pas vrai. OK. Donc, il y aura toujours des questions sans réponse sans réponse certaine sur ce mystère-là. Mais comme tous les croyants de l'Ancien Testament pouvaient avoir une espérance réelle de la résurrection et du royaume éternel, et de royaume éternel, il y a une faute, nous qui avons une révélation supérieure, on peut avoir une espérance certaine dans la résurrection corporelle, dans la vie éternelle sur cette nouvelle terre-là, même si on ne connaît pas tous les détails. La vie éternelle appartient donc au royaume futur. Et là, imaginez-vous, il me reste 2 minutes pour vous parler du royaume de la vie éternelle présente. Je pense que je me suis laissé emporter, puis j'ai été trop loin. OK. Tout comme le royaume est maintenant accessible, le royaume de Dieu s'établit par étapes, le royaume de Dieu est maintenant accessible, c'est ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, de la même manière que l'âge à venir a envahi l'âge présent, la vie à venir, la vie éternelle qui est à venir, a également envahi la vie présente. Mais comment? Certains textes de l'Évangile de Jean nous présentent la vie du royaume comme étant bien pour le temps présent. Jean 10:10 dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 3:36 « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 5:24 « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La question qui reste à savoir, c'est si nous pouvons maintenant connaître la vie éternelle dans sa plénitude. Et la réponse à ça, c'est non. Évidemment, on ne peut pas connaître la vie éternelle dans sa plénitude puisque je n'ai pas encore revêtu mon futur corps. OK, donc je ne peux pas connaître toute la plénitude de la vie éternelle, mais je peux quand même en faire l'expérience. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la parole de Dieu qui nous affirme qu'on a au présent la vie éternelle? On l'a vu, la vie éternelle était synonyme de royaume de Dieu, et comme telle, la vie éternelle suit la même structure que l'âge présent et l'âge à venir. Le royaume de Dieu, donc, est à la fois présent et futur. La vie éternelle est à la fois présente et future. On doit se poser la question... Qu'est-ce que la vie éternelle? N'est-ce pas? Alors, quelles sont donc les bénédictions? Jean 17, 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, il le définit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la notion de biblique de connaissance, on le sait, ne se limite pas à connaître intellectuellement des choses sur Dieu. Cette connaissance intellectuelle, c'est une notion grecque, c'est pas une notion biblique. La notion biblique de connaissance signifie l'expérience. La connaissance signifie une relation personnelle, une communion. Hein? Lorsqu'Adam a connu sa femme, il n'a pas de la rencontrer, là. Il a eu une relation sexuelle avec elle. Donc, il l'a connue d'une manière intime. C'est ça que ça veut dire. La communion fraternelle avec Dieu, l'amitié avec Dieu, la relation personnelle avec Dieu, c'est la vie éternelle que nous avons commencé à avoir. Lorsqu'on va être au ciel, on va vivre cette expérience-là sur une base éternelle, j'allais dire quotidienne, mais ça n'a comme plus de sens, sur une base éternelle avec la plénitude, cette communion avec Dieu, c'est ça la vie éternelle. Est-ce qu'on a aujourd'hui la communion avec Dieu? Alors nous avons la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas la communion avec Dieu, est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Non, ils sont perdus. Ils n'ont pas la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle que nous pouvons expérimenter aujourd'hui? C'est cette communion avec Dieu qu'on va connaître parfaitement dans l'éternité, mais qu'on peut connaître maintenant. Alors, si maintenant j'ai cette communion avec Dieu, j'ai la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est d'être en communion avec lui. Alors, on a la vie éternelle lorsqu'on a cette communion avec Dieu. Apocalypse 22, 3 à 4. Parle de la vie éternelle, de l'éternité. Il dit, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et le verront face à face. Et son nom sera sur leur front. » Ça va être quoi, la vie éternelle? C'est d'être face à face avec Dieu. C'est d'avoir cette communion avec Dieu. Vous avez soif de vie éternelle? Soyez en communion avec Dieu. C'est ce que vous pouvez connaître de plus près de la vie éternelle. De l'éternité, c'est votre communion avec Dieu. Vous êtes près de Dieu, vous avez cette communion avec Dieu, vous goûtez la vie éternelle. Ça va être ça pour l'éternité. Avez-vous hâte d'être dans l'éternité? Mais vous pouvez le faire maintenant, vous savez. Dès maintenant, si vous êtes en communion avec Dieu, si vous recherchez sa présence, si vous recherchez sa face, quand vous êtes dans cet état-là de communion avec Dieu, dans la prière ou dans un, je dirais pas dans l'extase, c'est pas la question, hein, on garde notre intelligence ici, mais on est en communion avec Dieu, on goûte à la vie à venir. Même dans nos épreuves, exactement. Donc, la vie éternelle qu'on expérimente aujourd'hui signifie qu'on a déjà été amené à une relation personnelle avec Dieu, qu'on a déjà été présenté à Dieu, que Dieu est devenu notre Dieu et qu'on est devenu son peuple, qu'on a commencé à entrer en communion avec lui, qu'on a commencé à partager sa vie. Bien que cette connaissance de la vie éternelle ne verra sa plénitude que dans l'âge à venir, évidemment, nous sommes maintenant entrés dans la vie éternelle, dès maintenant, car nous connaissons Dieu. Si vous connaissez Dieu, vous avez la vie éternelle. Le deuxième sens de la vie éternelle, c'est que la vie de l'Esprit de Dieu va habiter en nous. Jean 3:5, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'expérience de la vie éternelle que nous connaissons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut connaître Dieu et qu'on commence déjà à être transformé de gloire en gloire. On commence déjà à être préparé à la vie avec Dieu pour l'éternité. On peut expérimenter la vie du royaume dès maintenant parce que Dieu nous a déjà donné son Saint-Esprit. Et je veux continuer. Je pense que ça me tente. On va regarder juste quelques autres textes. OK? 2 Corinthiens 5:5. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. La même idée se retrouve dans l'épître des Éphésiens, aux Éphésiens, dans Éphésiens 1, 13, 14. Et lui, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de votre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. De quel héritage est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la plénitude de la vie éternelle, de la rédemption du corps qui va être glorifié. L'héritage que je vais recevoir à la fin, c'est ça. Mais l'héritage est encore à venir. Mais on peut être certain de l'obtenir. Et c'est la question que je vous demandais tantôt. Est-ce que ce n'est qu'une promesse? Est-ce que je suis sûr de l'avoir parce que Dieu me l'a promis? Oui. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que Dieu nous a juste fait une promesse? Non, il nous a fait un dépôt. Il nous a donné un dépôt de ce qui s'en vient. C'est plus qu'une garantie, c'est un dépôt. Moi, j'ai un héritage pour toi, là. J'ai 100 millions en banque, là. Puis quand je vais mourir, là, ça va être à toi. Mais en attendant, tiens, prends donc 10 millions, puis commence à vivre ce que tu vas vivre quand tu vas en avoir 100. Comprenez-vous? Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, les arts de l'Esprit que Dieu a fait habiter en nous, c'est un avant-goût de l'éternité. C'est un dépôt. C'est plus qu'une promesse. À partir du moment où on a goûté la vie éternelle ou qu'on a goûté le Saint-Esprit, on n'a plus juste une espérance à venir. On a une consommation réelle de ce que va être l'éternité. Qu'est-ce que les arts de l'esprit? On n'emploie pas souvent ce mot-là. Le dictionnaire le définit comme étant une somme d'argent que l'on verse, pas les arts de l'esprit, mais les arts. Qu'est-ce que... Pardon, les arts. C'est une somme d'argent qu'on verse à la conclusion d'un contrat. Il s'agit d'un acompte. C'est pas juste une garantie. C'est une possession partielle qui permet de jouir dès maintenant des biens que l'on possède pas encore totalement. C'est une possession actuelle, bien que partielle, qui garantit la pleine propriété au temps voulu. On retrouve un peu la même image dans Romains 8, 22, 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Les prémices de l'Esprit, c'est comme les arts, c'est comme un dépôt. C'est quoi un prémice? Le prémice, est-ce que c'est quand l'arbre bourgeonne? Non. Est-ce que c'est quand les feuilles commencent à pousser? Est-ce que c'est quand les premiers fruits apparaissent? Non. Non. Les prémices arrivent quand les premiers fruits sont mûrs. C'est différent. Les premiers fruits qui apparaissent, là, c'est pas bon, ça. Pas bon, pas en tout. Les premiers fruits qui sont mûrs, wow! Ça, c'est le prémisse. On les prend, on les mange et on dit, la récolte va être écœurante. Comprenez-vous? C'est ça le Saint-Esprit qui habite en vous. C'est un prémisse. Ça, c'est pour vous dire, hey, attendez de voir qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté. Ça va être extraordinaire, mais vous pouvez déjà le goûter. Vous n'êtes pas juste en attente de ce qui s'en vient. J'ai-tu déjà terminé? Faut-tu que je termine? Je suis encore enregistré? Alors là, je termine avec ça. Ce n'est pas la récolte, c'est plus, c'est le début de la récolte, plus qu'une promesse, c'est une réalité qu'on possède déjà. Et je vais terminer avec ça. N'est-ce pas merveilleux? Merci pour votre patience.